On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions vu la dernière fois un petit peu la psychologie des victimes du goulag, et aujourd'hui nous allons voir un peu la psychologie des bourreaux du goulag. De l'autre côté, les commissaires politiques, les juges, les gardiens, les officiers des camps qui formaient les fonctionnaires, qui étaient distincts hiérarchiquement des autres et qui se reconnaissaient au liseré bleu sur les épaules. Leur fonction, dit Solzhenitsyn, n'exige pas d'eux qu'ils soient instruits, qu'ils aient une vaste culture, une grande ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, ils n'ont rien de tout cela. Leur fonction ne demande pas de raisonner logiquement, et cela n'est pas dans leur nature. Leur fonction requiert seulement qu'ils exécutent les directives avec ponctualité et qu'ils soient insensibles aux souffrances d'autrui. Et ça, c'est un défaut classique des fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a, pas tous bien sûr, mais combien de policiers, de gendarmes ont honteusement mis des amendes de 135 euros à des gens qui se baladaient, à des gens qui respirent normalement, à des vieilles personnes qui étaient bloquées dans une ville au confinement. Enfin, il y a des multiples exemples. Ce n'est, là encore, le goulag, c'est pas le passé. C'est l'homme. Et l'homme a les mêmes défauts. Surtout le fonctionnaire. Il réfléchira pas. Il sera insensible. Il exécute ponctuellement. Ah, c'est les ordres, j'y suis pour rien. Tu vas souffrir, tu vas meurfler, mais j'y suis pour rien. C'est les ordres. Et ces qualités, il les possède. Nous qui sommes passés entre leurs mains, nous éprouvions cette sensation d'étouffement à l'idée que de cette corporation entièrement étrangère à toute notion humaine reconnue. S'il y a des gens pour qui il était clair que les affaires étaient bidons, donc qui vivaient dans le mensonge, c'était bien les commissaires instructeurs. Sortis de leur séance de délibération, ils ne pouvaient pas se dire sérieusement entre eux, pour eux-mêmes, qu'ils avaient démasqué des criminels. Pourtant, ils remplissaient des pages et des pages de procès-verbaux destinés à nous envoyer pourrir dans les camps. Et remarquez-le, c'est exactement le principe des truands. Aujourd'hui, à toi de crever, et moi, ce sera pour demain. Voilà pourquoi c'est la même logique qui règne selon les victimes et les bourreaux dans le goulag, de manière majoritaire. Il y a toujours des exceptions, évidemment, comme chez les bourreaux comme chez les victimes. Ils comprenaient que les affaires étaient bidons. Et pourtant, eh bien, ils poursuivaient leur labeur année après année. Comment l'expliquer? Peut-être qu'ils s'efforçaient de ne pas penser, et ils avaient admis tout simplement que ça devait être comme ça, que les auteurs des directives qu'ils recevaient ne pouvaient pas se tromper. Et ça aussi, c'est on a un doute, mais on ne réfléchit pas, parce qu'on ne veut pas de problème. Alors ceux qui me donnent des ordres, sachant que ce n'est pas très clair, mais ils ne peuvent pas se tromper. Mais si, ils peuvent se tromper. Bien sûr qu'ils peuvent se tromper. Donc l'univers des bourreaux était donc lui aussi un univers de mensonges engendré par un mépris égoïste de tout ce qui n'était pas moi. Un choix qui ne peut que socialement qu'engendrer, bien sûr, une violence démesurée, cruelle et absurde. Solzhenitsyn fait cette remarque en se rappelant la psychologie de ces commissaires politiques. Pourvu qu'il y ait un homme, on lui fabriquera toujours une affaire, disaient beaucoup d'entre eux. Par plaisanterie. C'est un dicton chez eux. Ce qui, à notre sens, est torture, pour eux, c'est un travail bien fait. Pourquoi se sont-ils attelés avec tant de zèle à cette course, non pas à la vérité, mais à la quantité d'individus traités par la machine et condamnés? Parce que c'était ce qui leur était le plus commode. Parce que c'était ce qui leur était le plus commode. sans sortir de l'ornière commune, parce que ces chiffres équivalaient pour eux à une vie tranquille et à des primes de salaire et à des récompenses et à de l'avancement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Le goulag a duré 80 années, 50 années de manière... À cause de ça, à cause de la nature humaine qui est prête à faire souffrir les autres du moment qu'elle, elle ne souffre pas. Et il en est de même dans l'administration, dans la magistrature, dans la police. Ici, aujourd'hui, il y a tant de suicides dans la police, des dizaines et des dizaines. Il y a 3 mois, on était déjà à 65 suicides. Et encore combien sont cachés. C'est que ces gens-là ne supportent plus eh bien, une vie, certes tranquille, mais de mensonges, d'absurdité. On leur fait faire des choses absurdes, injustes, par idéologie. Et au lieu de lutter, au lieu de s'opposer, certains quittent la police, d'autres s'y opposent, se battent à l'intérieur pour essayer de faire changer, mais c'est pas facile, ils se font écraser par la machine. Eh bien, d'autres préfèrent quitter la vie cette vie tranquille, mais qui n'a plus de sens. C'est dommage. Et c'est déplorable pour eux. Donc la République judéo-maçonnique, comme jadis le judéo-communisme, sont des systèmes qui sont fondés sur le mensonge qui finit par l'homicide. Pas toujours, mais qui a cette logique. Pour ces systèmes, il n'y a point d'autorité autre que la volonté de l'homme. Et ayant rejeté Dieu, ils luttent contre toute paternité qui va participer à la paternité divine, créatrice, providence, rédemptrice. Dans cette atmosphère-là, inévitablement, c'est le règne de la triple concupiscence. C'est l'esclavage du péché qui est favorisé par cela, par tous ceux qui se prétendent libres de Dieu. Triple concupiscence, on l'a vu, hein, ce qui gouverne les hommes, c'est quoi? C'est le ventre, le sexe ou l'orgueil. La faim, le plaisir ou l'ambition, l'orgueil. C'est ça qui gouverne les hommes pécheurs. C'est ce vers quoi travaille Satan. Favoriser dans la société la triple concupiscence. La luxure, l'impureté, l'avarice, la désir de possession et puis l'orgueil, l'ambition, la puissance. Ce qui les dominait et les guidait, c'était... les instincts qui, outre la faim et le sexe, règnent dans cette sphère. L'instinct du pouvoir et celui du lucre, de l'argent. Surtout celui-là, au cours de nos dernières décennies, le goût du pouvoir s'est révélé plus important que celui de l'argent. Le goût du pouvoir est bien plus important que le goût de l'argent. Et c'est exactement notre époque. C'est exactement ce qui caractérise notre époque. Et c'est d'ailleurs, remarquez-le, ce que le Christ nous avait averti. Ce sera ou Dieu ou Mammon. Mammon, argent, mais pas en tant qu'argent, en tant que pouvoir. Ceux aujourd'hui qui maltraitent le monde, ils ont déjà 90% de la richesse du monde. Ils ne le font plus pour l'argent. Ils le font à cause de cette jouissance que provoque un tel pouvoir sur les hommes. J'ai le pouvoir d'eux. Le goût du pouvoir s'est révélé plus important que celui de l'argent. Le pouvoir est un poison. C'est bien connu depuis des millénaires. Ça fait tourner la tête. Que personne n'obtienne jamais un pouvoir physique sur les autres. Pour l'homme qui croit qu'il existe quelque chose au-dessus de lui et qui, pour cela, a conscience de ses limites, moi je sais que mon pouvoir, il est délégué par Dieu et j'aurai à rendre compte à Dieu. Oui, mais moi je le sais. Donc ça, c'est un frein. C'est déjà pas mal. C'était les rois chrétiens, ils avaient ce frein. Parfois, ils ont tout passé leur pouvoir, évidemment, parce qu'ils étaient des hommes. Mais ils avaient cette limite. Alors, le pouvoir n'est pas encore mortel. Mais pour des gens qui ne connaissent pas cette sphère supérieure, pour des gens qui sont athées, qui se prétendent vivre sans Dieu, pour qui Dieu n'existe pas, pour ces gens-là, eh bien, le pouvoir est un poison cadavéreux. Rien ne peut les sauver de sa contagion. Et là encore, c'est ça qui nous gouverne aujourd'hui. Des gens qui ne croient pas en Dieu et qui donc pensent qu'ils ont un pouvoir illimité sur l'homme. Certes, le métier de commissaire instructeur exige de la peine. Il faut venir le jour, la nuit rester assis pendant des heures et des heures. Mais vous n'avez nul besoin de vous casser la tête sur l'épreuve. Pour ça, c'est un inculpé de se donner de la migraine. Vous, disait Solzhenitsyn, vous n'avez pas à vous demander s'il est coupable ou innocent. Faites ce qui est nécessaire aux organes et tout ira pour le mieux. Il ne dépendra que de vous-même de vous acquitter de l'instruction de la façon la plus agréable, de ne point trop vous fatiguer et de tirer quelques profits ou pour le moins de vous distraire. S'il y en avait au moins qui résistent un petit peu, disent les commissaires. Ah, j'aime les adversaires forts parce que ça met un peu de... ça change la monotonie des interrogatoires où la plupart des gens se couchent tout de suite. J'aime les adversaires forts. Ah, c'est agréable de leur briser les reins. Et ça, c'est la jouissance d'un pouvoir sur l'autre. Indu, bien sûr, mais ça fait jouir de pouvoir écraser quelqu'un. Il y a des gens, ça les fait jouir. Et s'il vous tombe entre les mains un inculpé si fort qu'il ne se rend absolument pas, et que tous vos procédés alors restent vains, alors vous êtes hors de vous, il me résiste. Eh bien, inutile alors de contenir votre rage, vous avez toute la puissance de la machine derrière vous. Quel plaisir énorme alors que de laisser éclater sa fureur sans aucune limite. C'est dans cet état que l'on crache dans la bouche ouverte de cette saleté d'inculpé. C'est dans cet état qu'on lui plonge le visage dans un crachoir. Dans cet état qu'on traîne les prêtres par les tresses ou qu'on urine au visage d'un accusé à genoux. Après un accès de fureur, on se sent vraiment un homme. Le Christ, sa passion, ça a été ça. On lui a tiré sur sa barbe, les cheveux, on lui a craché dessus. Mais c'est toute époque. À l'épuration, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient été fidèles au maréchal Pétain, c'était ça. On a exercé un pouvoir sur ces gens-là, de destruction, de jouissance. Le pouvoir de détruire l'homme, de le mettre à genoux. Faisons attention, nous, lorsque nous exerçons notre pouvoir. Nous ne soyons pas comme ces gens-là qui n'ont plus de limites. Oui, j'ai un pouvoir, mais je dois l'exercer de manière juste et modérée, parce que j'ai un patron au-dessus de moi et je devrais lui rendre compte de ce pouvoir. Il n'est pas normal d'humilier quelqu'un. Non, on peut être fier d'avoir fait justice à quelqu'un. Pas pareil, ce n'est pas pareil. Dans toutes les réalités terrestres et physiques, dit Solzhenitsyn, remarque, il y a des seuils. Hein? Un matériau résiste, puis à un moment donné, il y a un seuil critique, il casse, il se transforme. Hein? Les gaz peuvent se liquéfier. Au début, il résiste, et puis à telle température, il se liquéfie. Et il va dire que ça va être pareil pour l'homme. Il y a des seuils de malice, qui sont comme irréversibles. Comme. La scélératesse semble-t-il à elle aussi un seuil de grandeur. Oui, toute sa vie, l'homme hésite, se débat entre le bien et le mal. Il glisse, il tombe, puis il regrimpe, puis il se repent, puis il s'aveugle à nouveau. Mais tant qu'il n'a pas franchi le seuil de la scélératesse, qui est subjectif, hein, ça ne se mesure pas. C'est-à-dire que Saint Alphonse de Ligori dit que Dieu supportera pour chacun d'entre nous un certain nombre de péchés. Pas un de plus, ce sera la mort. Alors bien sûr, c'est vrai, si on réfléchit, c'est vrai, nécessairement c'est vrai. Parce que la mort clôt notre vie, aussi bien de mérite et de péché. Il y a un seuil pour toute chose, il y a une limite, il y a une fin pour toute chose temporelle. Un seuil de scélératesse. Il a toujours la possibilité de revenir en arrière s'il n'a pas atteint ce seuil. Il reste alors dans les limites de notre espoir. Mais quand il en a franchi soudain le seuil, par la densité de ses actions, qui n'est pas nécessairement une quantité d'action, qui peut être une intensité dans l'action mauvaise. Saint Thomas dit que parfois un seul acte avec une telle intensité de méchanceté peut suffire à acquérir le vice de cet acte. Alors que normalement, un vice n'est produit que par une habitude répétée de mauvaises actions, habituellement. Mais dans certains cas, l'intensité a été telle que le vice est acquis. Densité de ces mauvaises actions, leur degré ou par leur caractère absolu de pouvoir, du pouvoir qu'il exerce et qu'il exclut alors de l'humanité, et peut-être sans retour. Dieu jugera tout cela, mais en tout cas, Solzhenitsyn a remarqué que chez ceux qui s'abandonnaient à la malice, à la noirceur de leur âme, eh bien cela se voyait sur le visage. Et ça, c'est de même que la pureté se lit souvent sur le visage. Une certaine bonté d'âme se lit sur le visage, dans les yeux particulièrement. La colère, on le voit bien, quelqu'un de coléreux, quelqu'un de faux, les yeux. On peut toujours tromper, on peut être comédien, évidemment, mais c'est vrai généralement. Sur leur visage, un dépôt de cruauté racornie, ainsi qu'une expression perpétuellement sombre et mécontente. Ça, c'est un signe. Être toujours triste et mécontent. C'est pas un, ça peut être un tempérament, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est un grand pécheur, mais attention. C'est, en tout cas, c'est un signe de, c'est un signe que notre vie spirituelle n'est pas là où elle doit être, au niveau où elle doit être. Car la charité engendre la joie, dit saint Paul. Alors la joie, c'est pas l'excitation, hein, c'est pas rire à tous les deux minutes. Mais la joie, une joie profonde d'être avec Dieu. La charité produit la joie, pas la tristesse et le mécontentement. Tout se passe à merveille, croirait-on. Ils ont une vie tranquille, ils ont l'argent et l'avancement. Ils devraient être heureux, ces gens-là. Hein? On va retrouver le même processus que les brigands qui n'arrêtent pas de voler, mais quand ils se font voler, ça ne va plus. Ils n'arrivent pas à dire que le vol est bien. Et eux, ils n'arrivent pas à dire que leur vie tranquille est bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'ils sont tristes. Et pourtant, voyez, il y a cette expression de mécontentement. Est-ce parce qu'il semble qu'ils sont en train de rater quelque chose de mieux? Ou bien est-ce la marque que Dieu laisse immanquablement sur la fripouille pour prix de toutes ces scélératesses? Oui, il y en a une conscience, et cette conscience nous empêchera d'être heureux si on fait le mal. Alors on pourra l'étouffer un temps, plus ou moins, mais on ne pourra jamais la débrancher. On ne pourra jamais la débrancher, elle restera efficace. Et c'est pour ça que nous serons jugés justement en fonction de cette conscience et de ces lumières. Il est temps maintenant de se demander comment peut-on résister à ce déferlement de malice et de haine de ces hommes ténébreux. Eh oui, ça, c'est une question importante. Comment résisteriez-vous, vous qui éprouvez de la douleur, qui êtes faible, qui êtes lié par des affections vivantes et qui n'êtes pas préparé, ce qui était le cas de ces gens-là? Que faut-il faire pour être plus fort que le commissaire politique, instructeur? Il faut pénétrer, écoutons ces conseils, ils pourront peut-être un jour nous servir. Il faut pénétrer dans la prison sans frémir pour la douce chaleur de la vie qu'on a laissée derrière soi. Il faut se dire en franchissant le seuil, ma vie est finie, un peu tôt, mais je n'y peux rien. Je ne recouvrerai jamais la liberté. Je suis condamné à disparaître, maintenant ou un peu plus tard, mais un peu plus tard, ce sera encore plus dur, et le plus tôt sera le mieux. Je ne possède plus rien. Mes proches sont morts pour moi, et moi pour eux. À partir d'aujourd'hui, mon corps ne me sert plus à rien, il m'est étranger. Seul mon esprit et ma conscience me restent chers et conservent de l'importance à mes yeux. En face d'un tel prisonnier, l'instruction sera ébranlée. Seul vaincra celui qui renoncera à tout. Il y a eu des gens comme ça. Contre cela, on ne peut rien faire. Parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Parce qu'ils sont prêts à mourir. Parce qu'ils sont comme déjà morts. Pour garder le plus important, l'âme, la conscience. La difficulté, vous la sentez, et Saint Augustin la conclut. Mais qui est capable de changer son corps en pierre? Parce que quand on vous tabasse, vous avez mal. Stoliarova se souvient de sa voisine de Chali, en 1937, à la prison des Boutyrki. C'était une vieille femme. On l'interrogeait chaque nuit. Deux ans auparavant, un ancien métropolite qui s'était enfui en exil avait dormi une nuit chez elle en passant par Moscou. Et il était toujours en service et on le recherchait activement. Alors cette vieille femme dit, c'est vrai, un métropolite, c'est un prêtre, un archiprêtre, si vous voulez, en Russie. C'est vrai, j'ai eu l'honneur de l'accueillir, dit-elle. Bien, mais après, il a quitté Moscou. Et chez qui est-il allé? Il voulait le réseau. Ah, je le sais, mais je ne le dirai pas, dit cette vieille dame. Ah, je le sais, mais je ne le dirai pas. Il y avait une filière donc de croyants qui avait exfiltré en Finlande ce métropolite. Les commissaires instructeurs se relayaient, s'assemblaient, agitaient leurs poings sous le nez de cette vieille femme. Mais elle leur répliquait, « Vous ne pouvez rien contre moi, même si vous me coupez en morceaux. Vous avez peur de vos chefs. Vous avez peur l'un de l'autre. Vous avez même peur de me tuer parce que vous perdriez les renseignements que vous cherchez. Mais moi, je n'ai peur de rien. » Je suis prête même à l'instant de répondre devant le Seigneur. Vous comprenez bien que quand une telle personne, on peut la tabasser, on peut la tuer, mais on ne pourra rien faire. Ils sont perdus. Et nous, on se sauve. C'est dur, mais c'est la seule manière d'en sortir. Il y avait en 1937 des gens qui, après l'interrogatoire, ne revenaient pas dans la cellule chercher leur baluchon. Ils avaient choisi la mort et ils n'avaient déposé contre personne. Ils n'avaient pas menti, ils n'avaient pas fait ce qu'on leur demandait. Donc seul celui qui renoncera à tout vaincra. C'est ce que l'Évangile nous apprend. C'est ce à quoi les religieux normalement se prédisposent. Ils renoncent à tout. Parents, liens, affectifs. Ça c'est sur le papier. Mais là aussi, dans la réalité, on n'est pas tous de... Qui va rendre son corps de chair en pierre? Parce que ça revient à ça, cet héroïsme. Il y a un héroïsme. Alors, les saints qui ont pratiqué leur règle sont des héros, sont des saints. Mais beaucoup de religieux ne pratiquent pas comme ils le devraient leur règle. Ils ne sont pas tous des saints. Mais en tout cas, c'est ce que notre Seigneur nous a appris, c'est ce que certains religieux, c'est ce que la vocation religieuse, ce à quoi elle s'emploie, à renoncer à tout. Et il y a des moments dans la vie, cet héroïsme sera la seule voie de sortie unique nécessaire pour aller au ciel et pour être victorieux sur terre en mourant. Renoncer à tout pour le Christ. Il n'y a rien de nouveau, on n'apprend rien. Mais ces gens-là ont redécouvert ces choses-là par expérience, par nécessité. Là est la seule attitude possible devant le chantage que Satan et ses suppôts peuvent nous faire. Parce que c'est un chantage que nous fait Satan. C'est la logique de la tentation et du péché. C'est rien de plus. Seule cette réponse donc, nous permettra de vaincre la haine, le péché et même au final la mort. Sans cette vie de l'esprit en nous, c'est déjà ici-bas la mort de notre humanité. Mort qui va préparer notre mort éternelle. Donc on a tout faux. L'enseignement du Christ est clair. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Et qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Celui qui est prêt à perdre sa vie temporelle pour rester digne, pour rester juste, pour rester ami de Dieu, il gagne tout. Il perd un temps la vie temporelle, c'est vrai, mais résurrection oblige, il retrouvera tout, en plus la vie éternelle. C'est un enseignement que nous connaissions. Et quand bien sûr ces choses-là sont au-dessus de nos forces, d'une certaine manière c'est vrai, c'est au-dessus de nos forces, alors saint Paul nous l'apprend aujourd'hui, mais il ne faut pas avoir peur de prier ce Père dont l'action toute puissante en nos âmes peut aller infiniment au-delà de nos demandes. À lui, la gloire à tout jamais. Il faut avoir l'humilité de cette vieille femme. C'est cette force que nous avons en nous, à ce moment-là, c'est celle du Christ qui combat en nous, disaient tous les martyrs chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit « eux gentils », ils disent « ok ». On leur dit « eux méchants », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit « c'est la guerre », ils disent « ok ». On leur dit « faut la faire », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares, qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Satan qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons.
Ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.